Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Allez, bienvenue à tous et tout de suite un nouvel épisode de Paint, le podcast qui s'appelle Contre Nature.
Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Contre-nature.
Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de
Contre-nature.
Mais Alex Ramirez vient tout juste de faire le lancement qui était bien meilleur que le
nôtre. Il ressemble à quoi ce lancement, Alex? Parce que franchement, je pense que c'était bien meilleur que le nôtre. Tu peux nous le refaire?
Ok, tout de suite, c'était Angèle et Dualipa pour Fever. Et maintenant, c'est Paint, le podcast avec Aline et Cédric qui s'appelle Contre-nature. Et juste après l'horoscope de Valo et Christiane.
Je pense qu'on va utiliser ça pour tous les nouveaux épisodes, vraiment. Genre, pour le coup, on t'a connu avec ton spectacle que tu jouais avant, qui s'appelait
Sensiblement
Viril. Mais après, d'autres personnes ont pu te connaître comme chroniqueur sur Quotidien ou encore par tes parodies de Disney sur YouTube qui ont fait des millions et des millions.
Toi, t'es un des premiers à avoir fait ce genre de parodie avec Disney, non?
Ouais, bah, je suis quasi le premier. Il y a un Coréen qui faisait ça, et sauf que lui, il laissait la caméra vraiment au même endroit, et pour les plans rapprochés, il se rapprochait, il s'éloignait, donc c'était toujours la même valeur dans sa chambre. Mais vraiment, le plan par plan, pareil, ça a été moi le premier. Et après, il y a des Russes qui ont repris ça aussi. Mais j'étais le premier à faire les vidéos low cost.
Incroyable.
On va en venir. Okay, justement, on va un peu retracer le parcours. Sinon, en fait, il y a une chronologie.
Ok, sorry.
Donc, les gens ont pu peut-être aussi se connaître par les parodies de Disney. Et actuellement, tu joues ton spectacle Panache.
Oui.
T'as vu celui-là, on l'a quand même.
Celui-là, on l'a.
Au Casino de Paris.
Pas du tout, Comédie de Paris.
Voilà, c'était juste pour corriger.
Casino de Paris, c'est immense, c'est trop bien, j'irai sûrement, mais laisse-moi le temps de m'installer.
C'était pour que tu captes l'erreur. Mais donc, du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est avec the one and only Alex Ramirez, avec un S.
Salut, c'est moi.
Pourquoi avec un S et pas un Z, c'est portugais?
Même pas.
Non.
Là, je peux faire des réponses plus longues ou...
Ah non, mais là, tu dis ce que tu veux, là.
En fait, c'est d'origine espagnole, mais mon père est pied noir, ma grand-mère, donc sa mère, est d'origine espagnole, et je pense qu'il y a une histoire de... Ils sont arrivés en Algérie, pour pas montrer que c'était le même père ou la même mère, je sais pas quoi, ils ont changé, parce que normalement, espagnol, c'est avec un Z.
Bah évidemment. Oui, mais portugais, ce serait avec un S, justement.
Exactement. Okay. Mais c'est Ramirez, ça se dit Ramirez avec un S, et c'est avec un S.
Mais t'es quand même d'origine espagnole, du coup.
Ouais.
Ah, ok.
Comme,
comme nous. Hein.
Comme ma carnation et mes yeux bleus le prouvent.
J'avais un doute.
Ouais, nous aussi. Mais nous, du coup, c'est pareil. On a un nom Feito ouais, qui est assez portugais, mais on est quand même d'origine
espagnole. Voilà, on a ça en commun. Tout le monde pense qu'on est portugais, ouais. Mais.
Et le fait qu'on soit hilarants tous les trois, évidemment.
Et beau.
Oui,
et beau.
Accessoirement. Bon. Ben,
intelligent
oui.
Et modeste. Et
voilà. Exactement.
Ça, c'est tout.
Et qu'on sait faire des lancements de podcast.
C'est tout nous.
C'est tout nous. On t'avait demandé en début de podcast de nous donner deux anecdotes. L'une étant vraie, l'autre ne l'est pas.
Ouais, j'ai travaillé.
T'as travaillé sur...
Okay, les humoristes, c'est toujours les meilleurs parce que tu sais qu'ils vont travailler, tu vois. Genre les autres, ils sont en mode, ok, je vais réfléchir, mais les humoristes en mode...
Ouais, mais là, tu mets la pression là d'ouf.
Non, mais non. Je m'attends.
Des anecdotes. Ok, deux anecdotes. Alors, la première, c'est je me suis fait passer pour un Tchèque durant toute une soirée. Un mec de Tchécoslovaquie. Ouais.
Okay. Merci.
Et la deuxième, c'est dans une galerie à Berlin, tu peux retrouver mon cul moulé dans du plâtre.
Dans une galerie à Berlin.
Dans une galerie d'art à Berlin.
C'est une galerie d'art.
Au alors, milieu d'autres culs, évidemment. Mais...
Je sais que tu avais été à Berlin, parce que j'ai... Enfin, forcément. Mais pourquoi c'est... tu te serais passé fait pour tchèque et pas russe, tu vois, ou pas...
Moi, le truc de Berlin... Attends, on va pas deviner maintenant, mais le truc de Berlin, c'est très possible, parce qu'à Berlin, ils font des dingueries.
Après, il y a quand même son cul en plâtre,
bon
tu vois.
T'es très bon comédien, donc tu peux te faire passer pour n'importe qui. N'importe
et pourquoi
quoi.
Il aurait dit tchèque et pas grec, tu vois.
Mais il a dit Tchécoslovaquie, il a pas dit République tchèque.
Mais ça existe plus, la Tchécoslovaquie.
Ah
ah. Ah ouais.
Ah merde.
Oh merde.
La République tchèque.
Ok, République mais c'était, tchèque.
Ouais.
Ou la Slovaquie.
On dit tchèque ou on dit pas Tchécoslovaquie.
Non, on dit tchèque. Non. On dit République tchèque.
République tchèque.
C'est à vous de deviner. C'est quand
non, non, à la fin du podcast, on devinera.
Ouais, à la fin
moi,
du podcast,
je pense qu'on part
diras,
sur le cul moulé. Je pense que ça te... à Berlin, en plus, c'est quand
tu,
même...
Tu nous diras lequel était vrai et lequel était faux.
Ok, je
mais en dire. Tout cas, très bien trouvé. Moi, j'ai ma petite idée, mais on va...
C'est insoutenable.
Ouais, c'est clair, mais...
On va attendre la fin du podcast. Parfois, en fait, on parle tellement que des fois, on oublie qu'il y avait l'anecdote et on est en mode. Attends, d'ailleurs, avant que tu partes, c'était vrai ou faux?
Ton cul, c'était Berlin ou.
Déjà, merci d'être là, encore une fois.
Merci de m'inviter.
On voulait déjà, pour commencer le podcast, un peu revenir aux origines. Yeah. Tout simplement pour savoir, Alex Ramirez, enfant, qui était Alex Ramirez, enfant? Comment était ton enfance?
Oh waouh, t'as combien de temps là? assez jovial, hein, assez déjà un peu artiste. Donc moi c'était, j'écrivais des poèmes, des histoires, je faisais. Il y a une anecdote, ce soir je la raconte parce que je trouve que ça symbolise bien comment j'étais. J'avais un enregistreur, tu sais, un magnétophone où tu peux enregistrer des voix. Et en fait, j'enregistrais les dialogues de mes Playmobil. Et comme ça, après, j'avais juste à mettre play et je les faisais bouger. Alors que j'aurais pu vraiment le faire en le faisant.
C'est
hyper ingénieux.
J'étais très souvent dans ma chambre à faire des petites bidouilles, des trucs comme ça. Ouais, ouais voilà. Donc très créatif, très. Très low cost hein, déjà, tu sais, les trucs, les machins, le papier, le truc, découpage, machin, des histoires. Donc, moi, après, j'ai fait du violoncelle. J'ai fait du violoncelle quand j'étais du CP à la 6e, j'ai fait du violoncelle. Et après, milieu de primaire, j'ai commencé à faire du théâtre. Et là, c'était génial.
Et
là,
j'ai découvert ça, quoi. T'étais quel genre de pote dans un groupe d'amis?
Oh, alors, déjà, groupe d'amis, non.
Ouais.
J'avais pas de groupe d'amis. J'avais ma meilleure amie, Laura. Laura Lapierre qu'on embrasse, qui est toujours ma meilleure amie.
Laura Lapierre ?
Laura Lapierre.
J'adore ce nom. J'espère qu'elle est humoriste parce que vraiment...
Non, elle n'est pas humoriste, mais
Laura
elle est trop drôle. Elle pourrait.
Je suis trop fan.
et en fait, on était, tu sais, les... je dirais pas les ringards parce que on était dans notre coin en primaire et on jouait à Harry Potter avant même que ça devienne connu.
Ah,
parce qu'on avait découvert les bouquins, parce qu'on était, on lisait beaucoup.
Avant tout le monde.
Avant tout le monde.
Okay.
Les bouquins, tu sais, avant qu'ils sortent avec la belle police en or Harry Potter, c'était des livres folio... les trois premiers,
Souviens,
tu vois. Et on jouait à ça. On jouait à. Attention, il y a Rogue et Ruzard et tout. Et on jouait à Harry Potter. Et les gens nous prenaient pour des fous, mais on inventait plein d'histoires et tout. En plus, elle venait manger à midi parce que ma mère est assistante maternelle, donc elle a gardé à midi. Donc on passait. Moi, je passais. Voilà. Vraiment, mon enfance, c'était vraiment avec elle principalement.
Ok.
C'est trop
hyper
mignon,
créatif quand même et hyper en fait théâtral.
On se faisait des sketchs l'un l'autre. Machin.
Et elle est devenue quoi? Enfin, elle est devenue.
Elle est devenue quoi? Elle est traductrice. Elle vit à Marseille et on se voit minimum. Une fois tous les trois mois, quoi.
Pour jouer à Harry Potter.
Pour jouer à Harry Potter.
Mais tu subissais pas du harcèlement parce que tu te sentais différent ou
non
t'étais pas du tout isolé. T'étais dans ton monde, quoi.
On était vraiment dans notre monde. Donc on était deux, donc on était plus forts et on était invincibles, quoi. C'était vraiment oula, les deux fous. Il y avait pas de pression et en même temps on avait deux trois amis annexes qui gravitaient autour de ça en primaire. D'être créatif et tout ça, enfin, je veux dire, c'est un peu récompensé quand même. J'avais pas ce côté, les sportifs, les machins. Après collège, c'est une autre paire de manches, évidemment.
Et tu te sentais un peu isolé du coup? Enfin, t'avais ta meilleure amie du coup, mais est-ce que c'était difficile de faire d'autres amis?
Le théâtre m'a beaucoup aidé dans le sens où, pas à me faire des amis, mais à trouver des gens qui kiffaient les mêmes choses que moi. Donc du coup, bah ouais, tu t'en fais des amis, mais même des gens, tu sais, c'était un groupe collège et tu traînes avec des gens qui ont 3 ans de plus que toi, ce qui est impossible au collège en vrai.
Mmh. Oui, c'est...
avec ta caste, quoi.
Ouais.
Et là, parce que on avait tous l'amour du même truc, de créer, de faire des sketchs et tout, et que moi je m'éclatais, là ça m'a vraiment. Ouais, c'était une libération, c'était cool. Il y a un moment vraiment au collège où justement j'étais plus dans la même classe que Laura, où j'avais 2-3 potes, mais vraiment pour dire deux, et où à un moment ma mère m'a vraiment dit, mais t'es en déprime, quoi, je me rappelle vraiment, où j'étais seul. Ça m'allait, mais il se passait rien dans ma life, quoi. J'étais seul, quoi. J'étais dans mon monde, quoi.
Non, ouais. Mais en fait, et du coup, tu étais hyper créatif par rapport aux autres, ou peut-être que les autres s'identifiaient. Enfin, par exemple, est-ce que toi, tu avais des centres d'intérêt comme le foot ou les trucs un peu plus classiques, on va dire?
Non,
ou
le
c'est
sport,
vraiment.
Zéro. Okay. Le sport, zéro. Du coup, j'avais. Il n'y avait pas une solitude, il n'y avait pas de harcèlement, il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas un truc un peu. Il n'y avait pas un truc triste, mais il y avait un truc un peu dans mon coin, quoi. Où je me demandais. J'étais un peu en mode, bon, bah, vivement que ça se termine, mais J'arrivais à m'en sortir. Je te dis, j'avais toujours deux, trois potes avec qui je délirais, tout ça, mais il y a vraiment une année, je pense que c'est quatrième, troisième, où. Bon, t'es là. t'as deux potes que tu vois. T'as vraiment le maigrichon. On aurait pu être un dessin animé. T'as le maigrichon, celui qui a un an de moins, qui est minuscule, et le un peu rond, qui a des sourcils et qui remonte, t'es comme ça, qui pense même pas à les coiffer, qui est un peu geek, qui fait. Tu savais que. Et t'es là, bon, bah, on va jouer X-Men, qu'est-ce que vous voulez que je
fasse. Et toi, t'étais quoi dans ce.
Bah, je pense que je devais être le queer hein, dans l'idée, tu vois.
Ouais.
Bah, après, j'arrivais. Enfin, je pense que je devais être un peu geek aussi. Enfin, on était. Mais c'était un peu, j'étais un peu en mode bon si c'est ça mes amis jusqu'à la fin des temps bon. Et après et j'ai changé, je suis allé faire un lycée qui faisait option art plastique et audiovisuel, et autant te dire que là j'ai rencontré des gens super, pas forcément des gens queer en plus hein, mais vraiment des gens super, pas mal d'amis meufs aussi. Et en parallèle parce que j'ai changé de lycée, je suis allé dans un lycée un peu plus loin que chez moi, donc je prenais le bus et tout. Et en parallèle, je me suis fait une bande d'amis avec qui je suis encore, dont Laura était dedans, tout ça. En fait, elle a continué, c'est très loin, mais elle était en première littéraire et elle s'est fait une bande de potes. Et en fait, moi, il y a un pote à elle qui est devenu mon meilleur ami. Et on s'est fait un groupe de 8 et maintenant, tous les 8, on se voit tous les étés, tous les Noëls. Et
trop mignon.
Et à partir de la première, il y a eu un espèce de truc d'amitié de ouf.
Mais genre tes parents ils étaient pas inquiets pour toi, genre le petit Alex, il va être tout seul, il est bizarre. Il est...
Un peu ça, je te dis que collège. Okay. Un peu ça collège. Et à partir de la première, j'avais trouvé ma bande d'inséparable en été.
Et t'as des frères et sœurs ?
J'ai un grand frère. Ouais.
Non, soit du coup, t'as quand même une enfance tranquille. Ouais, t'étais bien, enfin, t'as une enfance heureuse quand même.
Ouais, t'as grandi où ?
J'ai grandi en Isère, en dessous de. T'as Lyon. En dessous de
Lyon. Quoi, à chaque fois, je dis ça ?
Non, je dis ça parce que en fait, t'as Lyon, je commence par Lyon, les enfants, ouais, je vois Vienne, pas en Autriche, je vois moins déjà. Bon, bah allez, on laisse tomber. Mais en Isère, ouais.
Ok.
Ouais.
Et à quand remonte la première pensée, peut-être la première idée que tu pouvais ne pas être hétéro ?
En fait, c'est ce que pour y avoir pensé un peu avant de venir, je me suis dit, ils vont sûrement poser la question.
Non, tu penses.
Qu'est-ce qu'ils sont.
T'imagines,
curieux.
On fait tout un podcast, en fait, on parle pas une seule fois des trucs queer. En vrai, on pourrait en vrai dans soi, mais.
C'est très tard, je dirais, justement autour de la lycée, quoi.
Ouais. Ah ouais, donc avant ça.
Mais parce qu'avant j'étais un gros gamin. C'est-à-dire qu'avant la sexualité n'existait pas pour moi. Moi c'était les Pokémon quoi. Et Harry Potter évidemment. Non mais il y avait vraiment ce truc là, j'étais pas.
Non mais la sexualité non, mais les crushs peut-être ou ouais, genre les attirances.
Bah non.
Non.
Non, je te jure, mon premier bisou avec une meuf c'était seconde. Je crois que c'était en seconde. Avec la langue. Sinon.
Avec la langue.
Avec la langue.
Bah ouais, parce qu'il y a les bisous, les smacks. Ouais. En fait, je faisais ça au CP, ça faisait rire les CM2. Donc ouais. Je smackais.
C'était un jeu pour
mon
toi.
Amoureuse de, mon amoureuse Margot, Gaël, tout ça. Ils étaient là, ils font des bisous. Et moi, ça faisait kiffer. C'était mon amoureuse, parce que je l'adorais. Quoi.
Ouais.
Et j'avais une amoureuse. Mais j'avais pas ce côté de ah, j'aimerais bien que ce garçon soit mon amoureux, tout ça. Okay. Ouais, non.
C'est drôle, Marine Bausson, qu'on a reçue, a dit exactement la même chose que vraiment. Elle a découvert peut-être au lycée, du coup, comme toi. Et avant, il n'y avait aucun indice, aucun.
Oui, mais
aucun
parfois,
contact.
Avec du recul, tu te dis, en fait, s'il y a des indices.
Exactement. Mais pour avoir cherché, je te jure, je suis allé faire mon BAFA, un stage BAFA, donc tu as 16 ans. Et j'ai rencontré un type qui, lui, était gay, assumé. Et en fait, à un moment, on a eu cette discussion où il disait, bah, en fait, je suis désolé, mais moi, genre, si on va se changer dans les vestiaires, je vais peut-être avoir un regard qui traîne et tout. Et j'étais en mode, putain, mais moi, pas du tout. Enfin, vraiment, en disant, je pense que, mais moi, pas du tout, ok. Donc vraiment autour de seconde première quoi. Donc c'est quoi ça.
Et du coup, c'est quoi ton moment où justement révélation un petit peu sur toi ? Est-ce que tu te souviens ?
Il y a un moment où je l'ai dit, j'ai dit que j'étais bi.
Ouais.
On l'a tous fait, mon désolé aux bisexuels
ouais,
qui nous écoutent.
Désolé pour les bisexuels,
franchement,
je suis bien
on
avec
fait vraiment
toi.
Chier. Mais en même temps, c'est dur pour nous. Donc,
50% du travail. Oui, oui, c'est qu'on est en mode...
On le fait pas exprès.
On
ne
le fait pas exprès, mais je suis d'accord.
Ouais. On l'a tous
fait, mais peut-être que cette génération le fait moins. Peut-être que c'est parce que c'était...
Espérons. Mais c'est vrai que c'est tellement plus simple de dire « J'aime encore un peu les femmes, genre vous en faites pas. »
Je l'ai dit à une soirée. Et d'ailleurs, il y a le cousin d'un pote qui a fait « Ouais, moi aussi !» Et du coup, on a fait
« Comme par hasard.
Ouais, j'avais vraiment peur. J'avais peur qu'un ami en particulier la prenne. Il l'a hyper bien pris. Parce que c'est le lycée, t'es du flip, tout ça, t'as des a priori. Et non, vraiment, le moment où révélation... Ah, il y a vrai... Bah, y a eu... En fait, quand j'ai rencontré toute cette bande d'amis et qu'il y a cette personne qui est devenue mon meilleur ami, qui s'appelle Nico, on a fait une après-midi où j'allais voir une amie très proche à moi et elle me dit alors tes vacances, j'ai dit bah j'ai rencontré une fille qui s'appelait Maëlys, on allait voir le lever de soleil tout ça, elle me dit je fais non, elle me dit quoi non, bah, je fais bah je pense que non parce que non, et en fait elle comprenait pas, et ce gars là du coup Nico qui me connaissait depuis très peu de temps après lui a dit en disant mais s'il a dit non comme ça c'est que et elle m'a appelé Lucille, donc une de mes meilleures potes aussi, j'ai beaucoup de meilleures
amies.
Alors ça faut le savoir,
on a...
j'ai ouais m'a appelé en disant est-ce que tu serais pas attiré, et là je suis sorti de chez moi, c'était l'été donc t'es pour téléphoner dans le jardin, et j'étais ok mais vraiment tu le dis à personne
au fond du jardin quoi,
je me revois encore, je dis non mais vraiment, mais par contre tu le gardes pour toi, lui c'est vraiment même en soirée nanana, et tout. Et après suite à ça il y a eu cette soirée où j'ai dit le cousin nanana, et peu à peu mon groupe d'amis a commencé à le savoir.
Oui mais ça veut dire que tu commences à avoir des, tu commences à regarder les hommes d'une autre façon, tu vois.
Oui, si... ah oui toi tu penses, tu veux dire la pensée, la première pensée,
ouais, le côté de bah en fait si ce, ce gars là il peut m'intéresser.
T'as jamais eu un crush d'une célébrité ou
non?
Alors
célébrité non, même là tu me dirais je trouve très peu de célébrités où je dis hein.
Allez là on te donne, bon non c'est bizarre comme question, mais genre on te donne l'opportunité avec une célébrité
consentante
consentante évidemment, j'en t'imagine ouais. Contre non, son gré
ok
mais,
c'est vrai.
Mais ouais, ouais. Non t'aurais personne en tête?
Non, je te jure, j'ai pas. Non.
Ok.
Je peut-être que les inconnus me plaisent plus.
Ouais, bah oui, finalement. Ouais.
Non, non, mais comme ça. Il y avait un moment, Ewan McGregor, parce que visiblement, il jouait, okay. Il jouait avec. Justement,
derrière la caméra, avec, elle est d'accord.
Il jouait avec justement sa bisexualité, plus ou moins, où il était très à l'aise avec un truc comme ça.
J'étais même pas au courant qu'il était.
Bah justement, je sais pas si c'était. Enfin, je sais pas si on a parlé. Enfin, si c'était vrai ou pas vrai. Du coup, il y a eu un côté d'un coup, comme tu peux l'envisager, il y a un côté.
Ok, c'est possible.
J'aime pas crocher sur des mecs.
Où c'est pas possible.
Ouais, je
comprends. Oui, parce qu'ils voudraient pas, tu vois, ils kifferaient pas.
Ouais, je sais pas, il y a un peu un côté gratter à la porte. Ouais, ouais, de l'hétérosexualité en disant vrai moi
ouais de ouf de ouf
je sais pas, ça m'attire moins déjà
de ouf complètement.
Mais non j'ai eu un crush au... ouais j'ai eu un crush au lycée, un okay. Gars horrible, un gars trop mignon, on s'attend un peu, on s'attend à la sortie des classes, non t'es vraiment, puis c'est pas vraiment logique qu'on fasse ça, t'es, on est pas dans la même classe et tout machin, et là il me dit Alex faut que je te dise un truc et tout, t'es là ouais bah j'adore Juliette, est-ce que tu pourrais me...
Oh,
je le déteste déjà.
T'as vu?
Et là, oui, mais fais... c'est pas une stratégie, parce que c'est pour voir justement si tu réagis et si t'es jaloux.
Non, je te jure.
Bah non, bah non.
Et qui fait sur une meuf en plus qui était pas si dingue que ça, je te mais en plus, quitte à aller avec une meuf, va avec une meuf exceptionnelle, quoi, je sais pas.
Comme toutes moi, en
meufs,
fait.
Toutes les meufs mais exceptionnelles.
Et vous aviez pas un truc en mode, comment... homo-érotique.
T'es sûr que c'était pas une tentative de drague que t'as pas capté? Parce que parfois tu fais ça, c'est peut-être qu'il a fait ça pour que tu sois jaloux, pour voir si toi ça te faisait
moi,
réagir.
Moi j'ai eu ça, j'ai eu un mec.
T'as loupé le coche.
Attention, en Chine, il y a un mec qui m'avait dragué de ouf, et pour tout ça pour me dire qu'en fait il était hétéro à la fin, et j'étais en mode mais. T'en souviens? C'était à nos 20 ans.
Mais oui, c'est une façon de tâter le terrain, tu vois. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va.
Et de savoir si la personne est prête finalement, tu vois.
Mais là vraiment, je crois qu'on en a.
Comment il s'appelle?
Non.
Non, allez,
on va nous écouter. T'imagines, nous écoute en fait, il nous suit et tout.
Et un autre gars pour le coup, là, j'acceptais, je voulais vraiment pas me risquer à avoir un nom ou quoi, et donc j'acceptais juste de rêver devant lui. Et pareil, lui plus âgé, en plus, on s'attendait à la sortie des classes et tout. Il y avait vraiment un truc où tout le monde même se disait, bah attends. Et je crois que lui, il en jouait beaucoup, mais sans être toxique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai tu vois, je me suis pas mis plus bactère pour lui et tout, mais du coup, c'était hyper. C'était une amitié hyper cool. Enfin, c'était un truc hyper. Là, c'était émoustillant. Mais tout ça, c'est du lycée. Hein.
Ouais, ouais.
Donc,
ouais,
du coup, à quand remonte ta première relation sérieuse où là, tu t'es posé avec quelqu'un? Enfin, peut-être pas posé, mais genre, tu t'es dit, allez, je vais tenter un petit. On rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour ses premières fois ou ses premières
déjà,
relations.
Mais alors, attends,
et qu'il y a des gens qui
n'aiment
pas.
Pour toi, exactement. C'est quoi ça, c'est le bisou?
Non, genre,
le
ça peut durer deux semaines, mais la première tentative de allez, j'ai envie d'être en couple avec cette personne ou j'ai envie d'aller en faire des dates avec cette personne. Genre ton premier date peut-être.
En fait, j'ai justement à ce fameux stage BAFA, j'ai rencontré un gars et j'ai senti qu'il y a eu un truc. Et en fait, toute mon année après scolaire, je me disais, je m'en fous si je rencontre personne. Si je revois ce gars, il se passera quelque chose, enfin, il se passera plus ou moins quelque chose et tout. Et je suis allé le rejoindre en Espagne.
Ah.
Et première fois que je prenais l'avion, première fois que je sortais avec un gars en Espagne, c'était magique, c'était génial. Premier amour.
C'était où en Espagne?
C'était à Grenade.
Ok. Ah ouais. Ok.
Et après on est monté dans le nord. Premier amour, c'était quoi? Une semaine, 3 ans à m'en remettre parce que premier amour.
Oh non.
Ah non. Là
pour une semaine.
Il t'a trauma
quoi.
Ouais,
une semaine.
Ouais, il m'a trauma. Il est super. Maintenant on se voit, on s'entend très bien et tout. Mais ouais, il m'a pas trauma, mais c'est qu'il était exceptionnel et c'était, il l'est toujours d'ailleurs. Mais il y a vraiment eu ce truc. Et puis lui, comme ça faisait un an qu'il était en Espagne, ça appartenait à l'Espagne, tu vois, tout ça. Donc en fait, il a tourné la page. Mais j'ai été cette personne qui appelle à 23h en disant mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Tu vois, ce truc de.
Pourquoi il m'aime pas?
J'ai fait ce truc. Non, mais en lui demandant cash. Hein. Qu'est-ce qui
m'aime
pas?
Mais c'est mignon, c'est genre une remise en question aussi, ou pour voir comment tu peux t'améliorer, ou qu'est-ce que
Parce que
c'est
vraiment, je voyais que lui, quoi. C'était que lui. Donc lui, ça a été vraiment.
Et t'as quel âge quand t'as fait ce truc du BAFA?
18 ans.
18 ans.
18 ans quand je suis sorti avec lui, et le BAFA, c'était 16 et 17 ans.
Quoi. Et t'as mis 3 ans à t'en remettre?
Vraiment, concrètement, ouais.
Ah non, moi, je pensais que tu t'exagérais.
Non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment eu un moment où. Ah, ok, c'était plus un problème de le capter, c'était plus un problème de. Ouais, ouais.
En même temps, si c'était ton premier amour, c'est normal, ouais, tu vois, exactement. Parce que c'est genre la première fois que t'as...
Ouais, premier amour, au-delà de ça, premier amour, première fois que tu réalises que t'es gay ou que t'as envie de poursuivre...
Ouais, bah ça, je l'avais déjà réalisé, mais le fait que lui le soit et qu'il corresponde à aucun archétype, parce que t'avais très peu de représentations, je trouve, à mon époque, de me dire, putain, on s'entend hyper bien, d'être dans un endroit hyper, hyper safe, parce qu'une pote à lui nous avait emmené plage gay, où du coup, tu peux, tu vois, tu t'embrasses, alors déjà, tu l'as jamais fait, même avec une meuf, et tu t'embrasses dans un espace ouvert, ouais. Tu vois, sur la plage et tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à un moment, je vois, il y a deux mecs qui arrivent, t'es un peu, tu sais, le visage un peu méchant, tu sais, rasé avec le recul, c'était juste des bires gays, tu vois, mais avec le recul, sur le coup, tu sais pas. Et t'es là. Et limite, on s'était un peu séparés en mode non, mais putain, il y a des mecs qui ont l'air un peu vénères. Et après, tu vois qu'ils s'embrassent, tu fais, ah, d'accord, ok. J'avais pas compris, je connaissais pas toutes ces communautés, ouais. Tu vois. Parce que dans les communautés, là, ils ont l'air vraiment très méchants, quoi. Soit c'est des homophobes, soit c'est des bires. Quoi. C'est un côté, c'est vous jouez avec les codes, quoi.
Les bières, pour ceux qui ceux et celles qui comprennent pas, tu oui, définirais comment? C'est un peu
les bières, souvent c'est des mecs très très qui vont jouer avec les codes de la virilité, ouais. Très masculins, soit gros ou musclés, ils vont avoir des chaînes, le crâne rasé,
exactement,
le ouais. Regard méchant, quoi. Exactement. La barbe, donc il y a un côté un peu wow.
Et après c'est les teddy bears, en fait, c'est les gens les plus doux parfois, ouais.
Et toi tu connaissais pas, du coup, et du coup tu pensais que c'était deux hétéros qui voulaient vous casser la gueule.
Ouais, je sais pas, d'un coup tu vois, il y avait quand même ce truc, mais du coup ça appartient à l'Espagne, donc il y a un côté où tu dis pas ouais, il y a mes parents qui vont arriver, qu'est-ce que tu vois, tout ça t'apprends en vacances l'été, meilleur moment pour vivre une romance gay, quoi.
Mais en fait c'est fou parce que c'est comme si t'avais ouvert les portes d'un autre monde, en fait, et tu vie. Dis wop, tu rentres là, tu vis ta vie tranquille avec ce gars là le bear là, les bears qui te font peur, enfin c'est, et en plus le fait que tu sois en territoire neutre entre guillemets, parce que dès que tu t'éloignes, dès que tu t'éloignes en fait de ce que était ton cocon, bah finalement tu te permets de créer une autre réalité, et c'est trop beau que ce soit comme ton premier pas, en fait, dans tu vois, ouais. Dans ce truc-là, quoi.
Ouais, c'est clair.
Merci l'Espagne.
Merci l'Espagne. Ouais. Bon, merci les voyages. Déjà.
c'est vrai.
Et ou pas, ça, on devient tellement la personne qu'on a envie d'être en voyage, je trouve.
Bah moi, j'avais fait mon coming out en France, mais j'ai mes premières relations au Canada, tu vois.
Ah bah voilà.
Parce que t'as ce côté de genre, je laisse ma vie française derrière, et là, je peux me reconstruire et me recréer.
Ouais.
Bah, toi aussi,
ouais, pareil pour le Canada. Genre en France, pas du tout. Et du coup, ça nous fait penser forcément à ton coming out. Ouais. Et au coming out que tu as pu faire ou non à ta famille, parce que tu t'en parles beaucoup dans ton premier spectacle,
ah,
sensiblement viril.
Sur Canal+, si vous l'avez
sur Canal+. Ah ouais, encore? C'est en replay ou quoi?
En replay sur Canal+.
Trop bien, bah, allez le voir si c'est pas déjà fait. Où tu parles justement du coming out et du fait que justement ton coming out était tellement un peu banal, entre guillemets, et qu'il s'est pas passé grand chose. Tu peux nous parler un peu du coming out
En vrai, ça s'est pas passé exactement comme ça. Vous voulez la vérité.
La vérité.
Ah non, t'as déformé tes propos pour le spectacle.
Bah évidemment. Ça s'appelle être humoriste. je suis pas un homme politique, encore que eux aussi.
C'est-à-dire que vous mentez tous.
Okay. Tous des menteurs, n'écoutez pas les humoristes.
Personne ne disait la même chose.
Ça s'est passé en deux temps. J'en ai parlé à ma mère. En fait, moi, j'avais envie d'en parler à ma mère quand j'avais un mec. J'ai envie de lui dire, écoute, maman, j'ai un copain. Parce que j'avais pas du tout envie, mais ça me regarde, de dire je suis gay dans l'absolu pour que justement elle cristallise des peurs, des questionnements, qu'elle imagine des choses qui sont pas vraies. J'avais plutôt envie de lui dire, en fait, voilà, je suis amoureux et voici quelqu'un. Enfin, je trouve ça plus sympa et même de mettre un visage sur une sexualité plutôt que de juste dire, parce que sinon ça, en aucun cas j'avais envie de lui en parler parce que ça me regarde, quoi, tu vois. J'étais déjà à Lyon, donc là on parle après le lycée à la fac, donc autour de 22 ans, et je sortais avec un gars et j'ai dit bah je vais lui en parler, et on montait à Lyon en voiture, donc une heure de route et tout, et j'ai dit bon bah voilà, tu sais, un tel en fait, bah, c'est mon copain, tout ça machin, tout ça, et on en parle un peu. Et vraiment là, elle vient chez moi, on mange, quoi, et elle se quitte, on se quitte, et juste avant elle me fait et moi qui voulais une famille normale.
Allez, merci.
Wow.
Ton frère, il est hétéro?
Ouais, il est hétéro. Mais je sais pas ce qu'il lui avait, je sais pas, il avait fait un coup d'éclat à un moment, donc pareil, truc, il y avait des histoires, quoi.
Il y a des bails.
Et donc il y avait des bails, ouais, exactement. Et donc du coup là, je suis là, et donc du coup pendant 3 ans, j'en ai plus reparlé. Il y a eu un côté de bah, tu sais. Parce que ça
et elle non plus, t'en parlais pas?
Elle m'en parlait pas.
Ah, donc c'était un peu le tabou, tout le monde sait, mais personne n'en parle.
Ouais, en plus j'étais plus avec ce mec. Donc après, il y a eu un moment un peu, j'allais dire traverser du désert, juste parce que j'aime le mot, mais pas du tout. Enfin, non, des petites relations, ça dure une semaine, des fois c'est des plans. C'était très mes années fac et tout, c'était très de briques et de broc. Hein. Il n'y avait pas l'amour évident, le côté simple et tout.
Mais il y avait déjà beaucoup de gens out à l'époque? Là, je dis à l'époque parce que nous c'était pareil, tu vois. Genre, je pense que c'est la génération où il y a, c'est pas encore, oui, il y a pas vrai. Encore les réseaux, il y a oui, pas encore.
Exactement. Il y avait pas les réseaux. J'allais pas en lieu gay dans le milieu. Je n'y allais pas du tout. Et j'avais beaucoup. Moi, j'étais. À partir de la deuxième année de fac, j'étais très concentré sur mon spectacle et sur justement ma carrière de qu'est-ce que je vais faire pour réussir et tout. Et donc du coup, je faisais beaucoup de théâtre, j'allais beaucoup voir des spectacles, et donc du coup ça me suffisait, j'avais pas vraiment cet appel ouais. Et même en termes de, tu sais, même de désir profond, tout ça, j'avais pas ce besoin. Je sais pas, en tout cas ça allait quoi, j'étais en coloc avec mon meilleur pote, tout se passait bien. Et du coup voilà, 3 ans sans en parler, et à un moment je rencontre un gars, et là je me dis bon bah lui on reste, ça fait longtemps qu'on reste ensemble et tout, donc je vais en parler à ma mère. Je sais plus comment ça se passe. Je crois que je sais plus comment je lui en parle. Je lui en parle et on rigole du fait qu'elle m'avait dit il y a 3 ans, moi qui voulais une famille normale. Tac, on bouffe ensemble, tout ça. Et du coup, 3 mois plus tard, j'en parle à mon père. Je lui dis, je vais en vacances au Portugal avec nana. Il me fait, ok, mais tu sais, c'est pas, pas mon pote. C'est mon copain. Donc ma mère le savait, elle m'avait dit, tu le dis à ton père. Et mon père, il fait, ah oui, non, mais machin. Donc tu sais, ce côté de défense, tu sais, un peu. Et ma mère va payer le resto et mon père me dit cette phrase qui le résume hyper bien, parce que c'est vraiment un homme des bois, mon père. Tu sais, enfin, un homme des bois, pas russe, mais tu sais, il va tout le temps dans son jardin, tout ça. Il me fait, mais il n'y a pas de lézard. Pas de lézard. Donc, à partir du moment où les parents s'étaient fait check, ouais. Le reste de la famille, j'en ai un peu, ça me dérangeait moins. Donc, du coup, j'ai fait ça en un repas de famille où j'ai dit, pour le prochain repas de famille, Pâques, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Bah oui, bien sûr, bah, mon copain, comment il s'appelle? Et après, du coup, j'ai dit comme ça. Et du coup, après, le repas de famille de Pâques. Je suis venu, même si entre temps il y a eu des éclats avec mon frère, tout ça.
Ah, ton frère, il a du mal à accepter.
Mon frère a du mal à accepter. Ouais.
Mais ton attends,
ça fait des super sketchs. Je pense que j'ai... Mais ma grand-mère, comme dans le spectacle, a vraiment dit il y en a un dans chaque famille.
Ok, au moins ça c'est vrai.
La grand-mère, c'est véridique. Heureusement.
Mais j'ai pas trop compris la chronologie. Tu l'as dit à ta mère.
Ouais.
Et après 3 ans après, t'en as pas parlé.
Statu quo.
Et ton père, tu l'as dit du coup 3 ans après aussi.
Ouais.
C'était... Ah non. Et tu voulais pas le dire à ton père aussi en même temps?
Mais non, parce
que
j'avais plus de mecs.
Oui, donc t'avais pas d'argument.
Donc tu voulais la même stratégie avec
ton
père.
Exactement, ça s'ancrait dans plus rien. Donc ma mère le savait, mais finalement, pensait que c'était plus ou moins une phase ou quoi.
Ok.
Oui.
On n'en a pas reparlé en fait. C'était vraiment. Je me suis dit, putain, on n'en a jamais reparlé quoi. Okay. Mais on parlait d'autres choses. Et puis je te dis, j'avais vraiment pas un truc à lui cacher parce que je.
Oui, t'avais rien à lui raconter.
Expérience que ça. Ouais.
Ok. C'est intéressant en fait. Tu voulais genre parler du fait que t'étais gay à travers une romance ou à travers une histoire d'amour plutôt qu'une sexualité en fait, et te dire. Être gay, c'est pas tous les clichés qui ramènent à être gay. Et à cette époque-là, à cette époque-là, genre, c'était surtout des trucs négatifs. Mais c'est plutôt, je suis gay, j'aime les hommes, et voici l'homme que j'aime, quoi.
C'était plutôt, et c'était même pas, je suis gay, j'aime les hommes, c'était, voici mon copain.
Ouais. Ah, okay, mais oui. Je pense que c'est la meilleure façon de faire ton coming out en réalité. Il y a beaucoup de gens en général qui nous demandent comment faire son coming out et tout. Et je pense que parfois, c'est juste justement normaliser le fait de présenter quelqu'un, et après, c'est à la personne de faire ses conclus, si t'es bi, si t'es pan, si t'es.
Enfin, ou pas le conclu, justement, t'as pas besoin de mettre un mot dessus, quoi.
Et puis surtout, c'est une personne en face. Donc, à part si t'as des parents qui font non, et qui te lancent des pierres, en vrai, forcément, même un inconnu, tu l'accueilles, bon, bah viens, installe-toi, et en fait, tu te rends compte que la personne est humaine et qu'on est tous humains, et donc il y a un peu un côté hyper plan-plan, un peu.
Après, ils vont régler les bails derrière, mais bon, oui,
ouais,
non.
Tu vois.
Ouais.
Alors, bien sûr, moi j'ai dit avant, est-ce que je peux venir avec mon copain? Je suis pas arrivé en disant bonjour, c'est mon copain. Ça, c'est d'ailleurs, une comédie romantique américaine.
Le mec à l'entrée.
C'est déjà un chien.
Et du coup, c'est ta mamie qui l'a mieux pris, entre guillemets?
Parce qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que la cousine de ma mère est lesbienne.
Ah.
La cousine de ta mère.
La cousine de ma mère est lesbienne. Son cousin est gay.
Okay.
C'était un
gène gay est très fort.
Et
très
exactement, du côté de ma mère, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en plus, ce gars-là, son cousin, je ne l'ai pas vu beaucoup dans mon enfance, mais à chaque fois que je lui parlais, je trouvais qu'il était d'une tendresse infinie, d'une douceur. Et je l'aimais toujours bien, quoi. Et du coup, d'ailleurs, on s'est revus depuis mon coming out. C'était marrant de dire, tu vois.
C'est pour ça que je t'aimais, en fait.
Ouais, je sais pas, il y avait un truc
ma
un peu
sœur.
Comme ça. Et du coup, oui, du coup, du côté de ma grand-mère, évidemment, qu'elle savait que ça existait et que tout allait bien. Et vraiment.
C'est la grand-mère du côté de ton père ou ta maman?
Du côté de ma mère.
Ok.
Et du côté de mon père, je crois qu'elle était déjà plus en vie.
Parce que ton père, il a l'air d'être un petit chou à la crème, non? Il a l'air d'être. Lui, il s'en foutait complet aussi.
Mon père, on a souvent. D'ailleurs, je pense qu'à une époque, comme il est très sensible et. Justement, ce qu'il explique, il a une part de féminité. Enfin, tu vois, résume ça comme tu veux. Tu vois, en tout cas, une sensibilité, ça veut pas dire que c'est une part de féminité. Mais du coup, souvent, comme il avait beaucoup d'amis femmes, soit c'était le tombeur, ou soit c'était peut-être il est gay. Il y avait ce truc-là où justement, lui, il a été longtemps dans son coin aussi. Il pêchait près du canal, enfant. Il y avait un peu ce côté comme ça. Du coup, c'était. Enfin, tu vois, c'est pas un masque toxique, c'est pas le patriarche. Ça n'a jamais été ça, mon père.
Ton père, du coup, il est un peu pudique.
Non, plus ma mère.
Ah, ok.
Ma mère. Mon père, il est plus sensible. S'il y a quelqu'un qui pleure à des mariages, c'est mon père.
Ok.
Ouais, mon père, je pense que le côté sensibilité, je le tiens vraiment de mon père. Ma mère est très sensible, mais du coup, elle a tout fermé, tu vois. Il y a le côté un peu plus. Parce qu'elle est très sensible, quoi.
Ok.
Tous les gens sont sensibles, en fait. Hein.
Oui, c'est vrai.
Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que
Water Drop. Donc, qu'est-ce que c'est Water Drop ? Ce sont des petites capsules comme ça.
Qu'on appelle des micro-drinks.
Micro-drinks qui donnent du goût à l'eau.
Pas de sucre, surtout, c'est important à préciser. Donc, ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain 10 et encore plus de remise sur d'autres produits.
Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance.
Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Du coup, on voulait savoir pourquoi est-ce que tu es comédien ? D'où t'es venu l'envie d'être comédien ? Est-ce que c'est depuis ton enfance ? Et parle-nous un peu de ton parcours de...
Oh wow.
De stand-up.
Dit comme ça, ça fait très entretien.
Non mais en fait, commencer.
Non mais où est-ce que ça commence en fait, tu vois ?
En vrai, si on va parler en date clé, sinon ça va être long. Mais vraiment, Laura, ma meilleure amie que vous connaissez, fait du théâtre. Mmh. Elle me dit, viens, c'est trop bien. Donc à partir de 9 ans, je me retrouve dans un club théâtre, dans une EMJC. Là, c'est la révélation. Vraiment, c'est ma soupape. Enfin, c'est trop bien. Je m'éclate. Je fais du théâtre de mes 9 ans à mes 19 ans dans cette EMJC. Je passe dans tous les clubs.
Ouais, ça fait beaucoup.
Avec vraiment un gars qui était aussi professionnel. C'était pas juste un animateur. C'est-à-dire qu'il était aussi conteur à côté. On écrit nos propres sketchs. Je fais rire des gens. On fait des spectacles de fin d'année. Je fais rire des gens que je ne connais pas. Je me dis, quel est ce pouvoir ?
Mais t'aimes bien faire rire les gens ?
Ouais,
à la base.
Sûr. Mais c'est une récompense dingue. Enfin, c'est le rire. En fait, c'est quand même lié au plaisir. Tu fais plaisir à des gens, les gens t'apprécient. Enfin, il y a vraiment un côté et la réponse, elle est immédiate, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux émouvoir les gens peuvent t'adorer, mais t'auras pas là les audios, quoi. Le rire, il est tout de suite, quoi. Et il se retient pas et il se fake pas, à moins que, enfin, tu l'entends, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a aucune raison de faire semblant de rire. Et du coup, je découvre ça, ça m'éclate, je me rends compte que c'est dingue. Et là, je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis à partir de ce moment-là, si je peux être humoriste, comédien, tout ça, je. Mais alors très pragmatique, bizarrement, me connaissant, c'est pas vraiment le cas. Je me dis ouais, mais. Les gens qui arrivent dans une grande ville et qui disent « Ouais, je vais être comédien » et qui attendent qu'on les appelle, mais ça marche pas. Je vais faire un taf à côté, un peu sérieux, et puis pour assurer mes parents. Enfin, sérieux, quand même artistique. Parce que je me suis dit, j'adore le cinéma d'animation. Et je voulais faire justement soit animateur en stop motion, soit infographiste, de la communication visuelle. Plus je grandis, plus je découvre la pub, les clips. Et j'adore ça, ces formats courts complètement what the fuck. Enfin, ouais, justement, avec plein de techniques d'animation. J'arrive à Lyon, et là, je me dis « Bon, j'ai même écrit sur. On avait un journal intime de vacances avec ma bande d'amis et j'ai écrit bon, l'année prochaine, c'est la fac, j'ai un an pour voir si mon rêve se concrétise. Donc, je m'inscris dans un cours d'impro où je paye, tu vois. Et je m'inscris dans un cours de café-théâtre. Cours de café-théâtre, d'ailleurs, dans lequel s'est inscrit Foresti quand elle a commencé.
Ah, énorme.
Foresti.
Foresti, Florence. Florence. J'ai passé une soirée avec elle il y a deux jours.
C'est vrai. Ah, waouh.
Et donc, voilà, une pote, quoi. Non, je rigole.
Besties. Flo, Flo.
Et du coup, j'apprends avec la fac en parallèle et je me dis, je vais aller voir des spectacles d'impro et je vais m'incruster dans les soirées d'après. Là, on est à Lyon. Et je m'incruste dans une soirée d'impro et je parle à tout, une soirée après spectacle d'impro, et je parle à tous les improvisateurs et tout. Et en fait, là, je rencontre un type qui est dans la troupe d'impro qui me dit, bah écoute, moi j'ai envie d'écrire. Et m'a dit, j'écris des sketchs si tu veux, on les travaille ensemble et toi tu les joues, quoi. Et donc, du coup, premier festival d'humour, il écrit un sketch que moi je remets un peu à ma sauce, mais du coup, où je gagne ce festival. Et du coup, l'idée c'était de jouer le spectacle en entier 6 mois plus tard dans un café-théâtre à Lyon, le complexe du rire où j'ai commencé. Et donc, du coup, je commence à rentrer dans le circuit des programmations, quoi. Et du coup, tu fais ton spectacle, je sais pas, tous les mardis dans ce café-théâtre. Et puis après, 3 mois plus tard, tu fais dans un autre café-théâtre et ainsi de suite. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenu intermittent. J'ai lâché la fac. À un moment, j'étais dernier cours de fac. Ça commence, les partiels et tout. Et je fais, madame, ça part de combien de temps qu'on peut partir ? Parce qu'il fallait quand même que je fasse.
Question en présent.
Ah ouais,
fallait que je fasse acte de présence, sinon j'allais être. Je devais rembourser les bourses étudiantes, tu vois. Donc, okay. Fallait vraiment que je sois là. Et là, vraiment, à partir de, je sais pas, 30 minutes, je pose mon stylo, je quitte l'amphi en disant ciao les nazes.
Wow. Grave une scène de film, ça.
Ah ouais.
Paris m'attend. Non, pas Paris.
J'arrive.
Le succès m'attend.
Une star.
Ouais, vraiment, j'étais là, pas tellement heureux d'arrêter, quoi. D'arrêter la fac. Et donc, du coup, les spectacles, un spectacle donc, qui est écrit par ce type-là, un deuxième où je commence à coécrire avec un autre gars, et après, Paris. Je me dis, je monte à Paris, même si je dois travailler dans un McDo, même si je dois faire un boulot alimentaire, je monte à Paris. Maintenant, j'avais passé 8 ans à Lyon, tu vois, et je faisais déjà des petits allers-retours à Paris. Et on se lance. Bien sûr, il y a plein de gens qui t'aident, qui t'hébergent et tout. Tu vois, ça, faut pas oublier ça parce que sinon, tu galères.
Oui, parce que c'est compliqué, c'est assez précaire comme milieu si t'es pas soutenu. Enfin, je veux dire, ouais. Avant de gagner tes cachets.
Et surtout
de
à
faire
Paris avec le loyer et tout.
En fait, à Paris, l'économie est que pour jouer dans une salle de spectacle, tu vas payer
la salle, tu la
loues,
quoi.
Et tu vas prier pour te rembourser.
Oui, c'est un investissement, quoi. Exactement. T'investis dans la
Alors
salle.
Alors qu'à Lyon, c'est le partage de la recette. S'il y a 2 euros, bah, c'est 1 euro chacun et puis c'est bon. Okay. Mais du coup, tu perds pas d'argent, t'en gagnes pas. Tu peux ne pas en gagner, mais tu vas pas en perdre. Paris, t'en perds. Et du coup, pareil, négociation, petit café-théâtre, tout ça, les blancs manteaux, je fais les blancs manteaux. Et là, il y a mon producteur de l'époque, Michael Chetrit, qui vient voir le spectacle, tu vois, et qui dit, bah vas-y, si tu veux, on part ensemble. Donc, production. C'était le même spectacle, ça s'appelait Alex Ramirez fait sa crise, sur la crise des 25 ans, tout ça, toujours le temps qui passe. Hein, ça, c'est vraiment,
ça, c'est vraiment truc. Ça fait peur, sujet. Le temps qui passe.
Le mec, ouais, tellement. Le mec ne vit bien aucune période, je m'en compte dans tous mes spectacles. La crise des 25 ans,
il y a toujours une crise.
35 ans. Et là, à un moment, le spectacle prend, mais pas tant, tout ça. Et là, Michael me dit, mais est-ce que t'as d'autres choses sur toi que t'aimerais peut-être raconter, tout ça? Et là, il savait pas que j'étais gay. Hein,
plus, hein. Ah ouais?
Ouais, non, je n'avais pas
tu
parlé.
Tu penses pas qu'en disant ça, il avait un tweet? Non, il avait pas.
On en a reparlé, et non, je crois pas. Juste.
Et t'avais pas peur de dire que t'étais gay?
Eh ben si, j'ai hyper peur, surtout d'en parler sur scène. Ouais. Non seulement d'en parler dans le milieu, et surtout après d'en parler sur scène, ça allait être.
Il y avait des gens à l'époque qui l'étaient? Ouvertement?
Et Jarry, je crois.
Ok.
Ouais, Jarry faisait déjà un spectacle. Mais tu vois, son spectacle s'appelait Atypique, donc c'était déjà regardé, je suis pas normal. Oui. Tu vois, il y a vraiment ce truc de ça devenait une créature, tu vois. Et il a raison d'utiliser ça après pour en faire une force. Mais sur le coup, ça faisait vraiment. T'es plus la même personne, enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Ouais. Moi, je voulais garder mon identité, mais. Parce que bien sûr, dans tous ces précédents spectacles, il y avait un sketch où je couchais avec une fille. Enfin, c'était vraiment, on était dans du mensonge qui devenait. Après, comme c'était un personnage, ça allait. Puis à un moment, on quittait un peu le personnage. Donc, des choses qui se mettaient en place. Et c'était. J'étais plus en phase avec ce que j'étais, tu vois. Et en fait, quand il m'a dit ça, je suis tombé malade pendant 3 semaines. Tu sais, genre le poids du mensonge, quoi. Vraiment, moi, je suis en plus très basique. Hein, vraiment, si je suis malade comme ça, il y a forcément un truc psychologique derrière. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais le dire. Tu sais quoi, je vais faire un sketch dessus. Et oh, du coup, là, on a abandonné l'ancien spectacle. Même c'était un spectacle de transition. Enfin, tu sais, on disait, ah, je vais faire un nouveau spectacle. Et Sensiblement Viril est né, quoi. Et j'ai écrit Sensiblement Viril et le premier sketch sur. En fait, je peux pas juste vous dire que je suis gay et passer à autre chose. On va faire un vrai sketch dessus.
Mais c'est bien, ça te donne de la matière en plus pour le
Tellement.
Sketch, quoi.
Et c'est vertigineux.
Et personne t'en a dissuadé de dire que t'étais gay?
Non, mais mon manager de l'époque. M'en a dissuadé les années d'avant, tu vois, où il me disait c'est pour ça que j'ai mis peut-être aussi longtemps à le faire. Je pense que tu sais, quand t'es à 50-50, si on t'appuie un tout petit peu sur le côté ne le dis pas, bah tu tombes de ce côté là je dirais pas qu'il m'a empêché, mais il y a un peu un côté où ça m'a un peu dissuadé, c'est ce que tu dis. Et ouais, il avait vraiment peur que je sois catalogué, tu vois, peut-être à juste titre, hein, parce que c'était aussi une autre époque. Lui, je pense qu'il avait un petit peu de. Au niveau de sa sexualité aussi, il fallait qu'il règle des choses.
Peut-être
un
truc.
Non, mais il était plus âgé, je pense qu'il y avait un truc à s'avouer aussi. Mais
c'est trop bien, Sensiblement Viril. C'est vraiment. C'était une façon de parler d'homosexualité différente à ce qu'on aurait pu voir, comme tu disais, avec Jarry et compagnie, tu vois. Et c'était une façon d'amener la sexualité, l'homosexualité pour le coup, mais pas comme on voyait d'habitude. Et c'est de déconstruire la masculinité toxique et des choses comme ça, quoi. Enfin, c'était vraiment c'était un peu un nouveau dans la scène, non? T'étais peut-être un des premiers à faire un sketch
dessus, ouais, au final. J'étais pas le premier humoriste gay.
Non, évidemment.
Mais à faire un sketch dessus. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait, que ça allait autant. Moi, c'était presque pour moi que je le faisais et je pensais pas que ça allait autant aider. Et avec le recul, je me suis rappelé, quand j'étais plus jeune, je me disais un jour, je me voyais, t'es sur scène, dire ok, je suis gay. Et parler à un mec, me dire mais t'inquiète pas, je vais pas te sauter dessus, quoi. Et au début d'ailleurs, cette vanne, elle était dans le spectacle. Et quand j'ai vu que j'étais connecté avec ce rêve que j'avais eu il y a des années en me disant ça sera jamais possible, ça m'a vraiment fait du bien, c'était dingue. Et après, oui, il y a eu ce sketch où d'ailleurs il y a eu un peu la claque un peu inverse où les gens ont pensé, il y a certaines personnes gays qui ont pensé que du coup c'était un peu homophobe et folophobe parce que je me moquais justement des mecs efféminés, alors que c'était pas le cas, parce que pareil, il fallait que j'ajuste mon propos aussi, évidemment. Parce que du coup, je parlais un peu presque pour les hétéros en disant je suis gay, mais je suis pas comme ça. Mais c'est quoi le comme ça? Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu vois, n'importe quoi. Donc pareil, il fallait ajuster tout ça où tu te prends un petit backlash de ah mince, d'accord. Oula, ok. Et après, ça a vraiment aidé. Ça fait des millions de vues, ce sketch et tout. Donc je pensais pas, en fait.
Ouais, parce que t'as été toi-même finalement.
Ouais, exactement.
Et de là, t'enchaînes avec l'émission avec Laurent Ruquier?
Non, ça c'était bien avant.
C'était bien avant, ok, oui.
L'émission Ruquier, je vivais pas encore à Paris et je faisais les allers-retours, donc très fatigant. Et c'est pas moi qui écrivais mes sketchs aussi. Donc d'ailleurs, tu vois, les sketchs qui prennent pas, c'est ceux qui sont pas écrits.
Mais
par moi,
c'est dur de faire des. Enfin, je sais pas, tu trouves pas comme en tant qu'humoriste, c'est dur de faire des sketchs qui t'appartiennent pas complètement ou qui sont pas de ton essence, tu vois? Genre. Qui
tu veux
sont
dire
de...
en écrit que
ouais,
c'est pas moi
d'incarner,
qui les ai écrits.
Des... Ouais, d'incarner bah, des choses qui ne viennent pas directement de toi, quoi.
Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, ça a été ma force. Et d'ailleurs, tu vois, je trouve les humoristes qui cartonnent, en fait, c'est qu'ils sont eux.
Oui.
Et tu as l'impression que c'est hyper con de dire, mais sois toi-même. En fait, pour en avoir parlé avec Marine, où justement, Marine, elle, pendant longtemps, elle a décidé Après, elle a décidé d'embrasser qui elle était, Marine Baousson. Mais en fait, oui. Mais c'est, en fait, si tu, surtout en humour, maintenant, on est beaucoup. Tu peux pas faire autrement. Tu peux plus dire, moi, je suis le mec qui fait juste de l'humour noir et vous saurez rien de ma vie. C'est impossible. Tu peux pas être un style d'humour.
Avec les réseaux, tu veux dire que tout se voit ou tout se sait ou...
Non, plutôt avec le côté, le pacte que tu fais avec le public, il est dans la sincérité. Évidemment que tu rajoutes des choses que t'es pas obligé de tout raconter. Mais en tout cas, il faut donner de toi. Et je trouve que c'est pas un sacrifice, c'est plutôt une récompense.
Mais je trouve ça vachement intéressant parce que tu nous racontes ton enfance et comment tu étais petit, créatif dans ta bulle et tout ça. Et tu dis que tu as peur du temps qui passe, alors que pourtant, quand tu parles, on dirait que tu parles avec la même essence que le petit. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
on dirait qu'en fait, tu es figé un peu dans le temps et finalement, tu fais. Non, mais c'est vrai.
Bah
tu
ouais.
vois, dans ce que tu es, j'ai l'impression que tu restes quand même cet enfant-là, tu vois.
C'est pas que j'essaye parce que c'est un peu gênant le côté je suis un grand enfant Peter Pan.
mais
t'es authentique, enfin tu restes,
mais en tout cas,
fidèle
c'est
à
ça a été des moments. C'était Vincent Dedienne qui disait l'enfance, sortir de l'enfance, je sais pas s'il citait quelqu'un, c'est un traumatisme dont on se remet jamais vraiment. Et donc du coup je te dirais pas que moi c'était un traumatisme, mais en tout cas il y avait un moment où je pense que si à un moment j'étais totalement moi-même, c'était aussi dans cette chambre avec ses Playmobil. Et d'ailleurs, le fait que les vidéos cartonnent, les vidéos low cost cartonnent, c'était ce que je faisais déjà dans ma chambre. Et pareil, sans m'en rendre compte, sans calcul, quand tu reviens à des trucs qui sont toi, et ben en fait les gens sont enfin je me suis pas dit ça va faire le buzz. Et pareil, je me suis pas dit ça
t'a fait kiffer,
tu l'as fait comme ça en mode c'est drôle, on va voir ce que ça enfin. OK, parlons-en de ces vidéos low cost parce que moi je suis fasciné par
ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils m'en parlent, mais genre même avant qu'on fasse Paint.
Moi oui, mais même avant que je sais pas, peut-être qu'avant même qu'on te connaisse, tu vois. Je pense que je connaissais les vidéos avant ton spectacle tout ça ou avant qui tu étais, tu vois. Et parce que même nous au Canada, ça tournait de ouf. En fait, pour moi honnêtement, c'était un succès international parce que c'est des trucs qui se partageaient un peu partout. Nous
on c'était international.
Bah
oui, c'était global, c'était un phénomène mondial et vraiment tu as fait des millions et des millions et des millions de vues. D'où te vient l'idée de... Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as arrêté ça? Parce que genre, je trouve ça... Enfin, tu dois avoir tes raisons. Mais d'où t'est venue l'idée de faire...
Alors, d'où m'est venue l'idée? En fait, je... Back to... je sais pas, on est quoi? On est au collège, je pense. Avec Laura, décidément, tu vois.
Laura, vraiment, pilier de ta vie.
Je l'invite chez moi une après-midi. Moi, j'adore le cinéma. Donc je suis abonné à un magazine de cinéma qui donne des affiches. Donc, dans ma chambre, c'est que des affiches de cinéma.
Oh, j'adore.
Et ton film de référence, c'est quoi? Pour avoir une idée.
Harry Potter.
Shrek 2, évidemment.
Okay,
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Pas vu.
Très bien, très bien. Ça, c'est les films qui te bousculent et te bouleversent quand t'es ado. Souvent, tu les gardes un peu, films doudou, tu vois. Tigre et Dragon. Ça m'a fasciné. Du coup, on refait toutes les affiches qu'il y a autour de moi avec la photo. Tu vois, Da Vinci Code, c'est la Joconde, on lui met une page comme ça sur la tête et tout. Donc, en fait, les locaux, c'était existé déjà, quoi. Et je commence à faire des vidéos, je fais des explications de clips, ça s'appelle Alex t'explique, où là je reprends, je parodie un peu les clips et je suis habillé comme la personne dans le clip et tout, mais vraiment j'en parle juste des clips et je balance des extraits. Et un jour je me dis, tiens viens, Le Roi Lion, on fait plan par plan avec Max Bird, on commence à faire Le Roi Lion. Et là on met, et on se rend pas compte qu'en une semaine, c'était Facebook à l'époque, 3 millions de vues sur Facebook, et c'est que le début, puisque sur Facebook, c'est même pas sur YouTube en plus, c'est ça, c'est que maintenant je pourrais même pas comptabiliser en tout. Et 9Gags, qui est un truc américain, qui le repartage, tout ça, machin. Et ça prend une ampleur dingue. Donc après, on en fait d'autres. Et c'est comme ça aussi qu'avec Léa, qui est une très bonne amie à moi maintenant. Léa, celle qui réalise tous mes projets vidéo. C'est vraiment ma best. C'est une super réalisatrice. Et elle fait d'autres projets, évidemment. Mais du coup, dès que tu verras une vidéo de moi, tu sais que c'est Léa qui l'a réalisé. Que ce soit mon format court sur Canal+, c'était elle aussi.
On t'embrasse, Léa, si tu nous écoutes.
On embrasse Léa, évidemment. Et du coup, avec Léa, du coup, une amitié se crée, une complicité. Et puis surtout, elle a une rigueur de travail. Et on commence à faire des vidéos. Et en tout, on en a fait 50.
Ah, donc,
il
n'y
a pas que les Disney. Il y a aussi des Matrix. Il y a aussi Jurassic
50.
Park.
50
50 vidéos low-cost.
Je suis
low-cost.
Fan, mais je n'ai pas vu les 50.
Il y a une playlist sur YouTube.
On peut les trouver où? Sur YouTube?
Sur YouTube, il y a ma playlist.
Sur Alex Ramirez.
Ça dure une heure et demie, comme un film, si tu veux.
Ok, on met quoi? Alex Ramirez
Alex Ramirez, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu as la playlist low-cost.
J'adore La Petite Sirène. Enfin, je les adore tous, en fait. C'est tellement...
Et du coup, La Petite Sirène, ça a relancé...
Ah ouais, c'est celui-là?
Non, La Reine des Neiges. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu La Reine des Neiges qui est sortie en même temps que mon sketch sur l'homosexualité.
Ok.
Et là, il y a eu un double, genre, il est humoriste, mais il fait aussi des vidéos low cost. Et là, on a été rempli, ouais, 3 semaines à l'avance. Là,
c'est, non, mais en plus, c'est low cost, mais c'est incroyable le niveau de low cost, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est le niveau de précision.
Ouais,
il
mais
est
c'était
juste
l'idée.
Incroyable.
De création, c'est la créativité derrière ça, c'est. Ouais.
Bah
moi,
non, mais
c'est,
moi, je suis hyper content que ça ait marché.
Bah ouais.
Et je ne m'attendais pas du tout à ce point. Et La Petite Sirène, ouais, ça a vraiment cartonné aussi. Et là, c'est sur YouTube qui a été pris, ça a été repartagé. Et là, pour le coup, tu vois les vues, c'est Mexique, Japon et Thaïlande.
Oui. Ah ouais?
Ouais, plus qu'en France, en fait. Okay. Moi, j'étais là, les droits d'auteur.
Si, mais parce que c'est super. Ouais, c'est très smart aussi, même malgré toi, d'avoir attaquer ce terrain de Disney parce que tout le monde adore Disney, tu vois, donc c'est un truc qui parle au monde entier.
Ouais, c'est vrai. Et Disney a été hyper chill avec ça parce qu'ils auraient pu me striker.
Ah oui,
tu
c'est
vois.
Vrai. Ouais,
ouais non, parce que t'as eu des retours de Disney en mode.
Bien sûr, mais
c'est
Disney
vrai.
A une veille sur tout. Tu peux. Arrête. Attends, j'utilise leur musique.
Mais attends, tu leur fais une pub incroyable.
Évidemment. Mais du coup, c'est pour ça, c'est cool. Ils auraient pu dire ah non, machin. Okay. Et comme t'as pas de jugement. Moi, ouais. Je suis premier degré quand je suis la Reine des Neiges, je suis premier degré la Reine des Neiges.
Oui, on l'a vu, on l'a vu.
Je joue, j'interprète, quoi, tu vois.
Et tu donnes
et d'ailleurs, au final, ça donne un truc hyper queer aussi parce que t'as des enfants, du coup, qui voient une Reine des Neiges avec une barbe
rouge. Exactement,
ouais,
exactement.
Et ouais. Ça, je m'en rendais pas compte, en fait. Ouais. Parce que moi, ce qui m'éclatait, c'était faire des gens qui étaient pas moi. Donc, des meufs, des animaux, des enfants. Si c'est pour faire un mec, tu vois, de mon âge et tout, ça m'intéressait moins, quoi. Surtout, justement, c'était tous ces personnages que je peux pas être. C'est ça qui m'éclatait. D'ailleurs, dans les choix des films, t'as pas, tu vois, t'as rarement, justement, du Pulp Fiction ou quoi, parce que c'est moins intéressant et puis c'est moins visuellement intéressant.
Et du coup, t'as arrêté ?
Et j'ai arrêté parce qu'en fait, ça devenait. Je commençais à devenir, mais peut-être une erreur, je sais pas, mais je croyais que. On avait un peu fait le tour, c'était fatigant aussi. Et il y avait le côté aussi, ça faisait un peu bijou du web. Et moi, je voulais un peu m'implanter en tant qu'humoriste et auteur aussi. Et du coup, j'ai arrêté pour faire des vidéos qui s'appelaient Profession. Et qui ont fait moins de vues évidemment, mais où je faisais des sketchs et où je jouais des personnages et j'interprétais vraiment des personnages. Et je.
Ah oui, oui, oui.
Il y avait
vraiment.
Déjà le directeur du centre culturel qu'il y a dans mon spectacle,
qu'on
avait déjà le médium, pour montrer que je pouvais écrire et jouer. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a ouvert d'ailleurs un peu plus de rôle parce que sinon, ça allait juste être le gars qui se déguise en princesse et qui fait du playback. C'est-à-dire que t'entendais jamais le son de ma voix.
Oui, oui.
Et j'avais envie de. Dans ce métier, il faut un peu. Tu sais, tu peux pas imaginer que les gens vont t'amener sur des rôles que toi, tu leur as pas déjà montré que
présenté.
Tu savais faire.
Ouais. Et donc, du coup, bah, ça, une parfaite transition justement pour. Ton spectacle que tu joues actuellement.
Oui.
Où ça, Alex ?
À la Comédie de Paris.
J'allais dire la clé au casino.
Je le joue jusqu'au 27 avril. Jeudi, vendredi, samedi à 19h.
Raison de plus de le sortir la semaine prochaine. Jusqu'au 27 avril.
27 avril, ouais.
Au... Non, mais j'ai vraiment un blocage
à
avec
la
ce
comédie.
Mot.
Comédie.
Putain, c'est le métro Pigalle. Vous
et nous
sortez à Pigalle, vous descendez.
Blanche, métro Blanche.
Putain, bon, allez.
Non, mais Blanche ou Pigalle ça. En vrai. Hein. Oui,
Blanche,
oui, Blanche.
Non,
ouais.
On s'était arrêté à Blanche, il me semble.
Oui, Blanche.
Qu'est-ce
ouais,
que
ouais.
Tu es imprécis.
Ouais. En tout cas,
la,
on avait...
la salle va se remplir là.
On
pensait que tu nous voyais.
Bertrand. Pour la peine.
Nous, on a été le voir du coup.
Ah oui.
On a été le voir. Donc, désolé à Marine qui nous a bien fait se comprendre que.
La jalousie entre humoristes, c'est un truc.
Parce que Marine Bausson voulait absolument qu'on voit le sien avant le tien.
Surtout
et on n'a pas pu voir le sien parce qu'on allait au sien.
Surtout qu'on avait des questions en plus qu'on a demandé aux gens pour toi. Elle a mis encore.
Ah ouais.
Non, mais elle t'aime beaucoup.
Non, elle est incroyable.
Et du coup, on a été voir ton spectacle qu'on a adoré. On a rigolé du début à la fin. Dédicace à notre amie Charlène. On n'en pouvait plus parce qu'elle était pliée de rire pendant tout le spectacle, on a dû la redresser.
Donc ouais, c'est un spectacle pour tout le monde parce que Charlène est hétéro et
exactement.
Était morte de rire pliée.
Morte de rire. Parce
surtout,
que...
elle a un rire tellement drôle que quand elle rit, tu ris avec quoi.
Ouais, mais tout le monde était mort de rire et surtout, c'est un humour hyper intelligent. Enfin, tu sais, c'est... En fait, tu incarnes des personnages et en même temps, c'est très touchant. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'émotions à travers tout le spectacle. Donc c'est
très
c'est
réfléchi. C'est très différent à ton dernier spectacle, j'ai l'impression aussi. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mature dans le sens où... c'est drôle et en même temps tu parles de vrais trucs enfin ça te fait vraiment réfléchir tu vois d'ailleurs il y a enfin non j'ai pas envie de spoiler non je
non
pas
spoil
saler.
Pas spoil pas
mais
ça dépend attends tu veux dire quoi
tu sais le moment justement tu parles un peu de ton frère
ah oui bah ouais
il ben, y a des moments il
si
y a des moments en fait
ça ça spoil si tu dis de quoi je parle mais
ouais.
Si tu dis de la masculinité toxique
ouais.
Là, tu,
oui.
Peux, tu peux
ouais.
En parler là
mais en gros il y a c'est un mix de tout il y a énormément de rire mais aussi beaucoup de sérieux entre guillemets. Et d'ailleurs, tu commences avec un. Je sais pas si je peux spoiler, mais je peux
si,
te dire.
Si, je commence avec
tu
un, défilé,
avec un défilé incroyable.
Ouais. Oui, c'est vrai.
On s'attendait pas à ça, on s'est dit, mais ça va où ça ?
C'est fabuleux, hein.
Ouais,
c'est...
Incroyable. Donc, du coup, justement, ça s'appelle Panache. Donc, pourquoi ça s'appelle Panache ? Et parlons un peu de son spectacle en quelques phrases.
Pourquoi ça s'appelle Panache ? Panache, je trouve que c'est justement, c'est cette espèce d'assurance qui est peut-être un peu fausse des fois. C'est... Déjà, le mot est trop beau.
Le mot veut dire quoi ?
Le mot veut dire. Bah, c'est ça, c'est une espèce d'audace. D'assurance, de confiance en soi. Et en même temps, ça veut aussi dire un groupe de plumes. Un panache, c'est aussi
ah
un groupe de plumes.
Okay.
Je trouve que l'image du pan, du coup, marchait bien pour l'affiche et tout. Et c'est le dernier mot dans Cyrano de Bergerac. C'est tout ce qui lui reste. Il dit mon panache, c'est le dernier mot de la pièce. Et j'ai pas vraiment pris pour Cyrano de Bergerac, mais plutôt pour ce côté, justement, ça veut dire le côté confiance, mais fabuleux, quoi. Un peu, justement, coloré, flamboyant. D'ailleurs, panache en anglais, c'est flamboyant.
Ah ouais
okay.
Bel accent. Du coup, c'est un spectacle sur la confiance ou faire semblant d'en avoir. Ça, c'est un peu mes éléments de langage, mais c'est vraiment ça, en fait. Je suis arrivé... Tu sais, moi, chaque spectacle, c'est un peu... Il y a une problématique. Il faut que chaque spectacle ait une problématique. Genre, comment il va Alex Ramirez aujourd'hui bah, hein. Et bah, le premier, ça parlait pas mal de mon coming out, de l'homosexualité, tout ça, pour dériver finalement après sur d'autres thèmes, évidemment, c'est le principe d'un spectacle. Et là, le thème de base, ça a été vraiment la confiance se fait de... Surtout à Paris, j'ai l'impression, c'est... Dans mon métier et partout, il y a un peu ce côté, le fameux fake it until you make it, prétendre jusqu'à devenir. En fait, ça marche un peu. T'as des gens qui, parce qu'ils se prennent pour justement des. C'est Raphaël Quenard qui disait ça. je me dis, si je me prends pour un grand acteur, peut-être je vais le devenir, tu vois. T'as un peu ce côté comme ça où l'audace est récompensée, la confiance est récompensée. Et moi qui suis un peu finalement, je dirais pas timide, mais qui va attendre d'être validé, en fait, tu te rends compte qu'il faut prendre sa place. Et donc du coup, ça me fascinait. Et je me dis, j'ai parlé de ça. Et ça a été un prétexte pour finalement déjà faire plein de personnages que j'aimais, interpréter plus de personnages.
Qui sont hilarants d'ailleurs, vous verrez, les uns après les autres. Genre...
Et très différents en plus.
J'ai mes préférés, mais ils sont tous hilarants.
Il y a des rythmiques différentes. Ouais. Et en fait, tous ces personnages, le point commun de ces personnages, c'est pas. Je les incarne parce que je les aime. Non, je les incarne parce que ils me saoulent et que j'ai envie qu'on se moque d'eux. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Ça, c'est avec le recul, je me suis rendu compte. Et c'est des personnages qui se mentent presque tous à eux-mêmes, qui sont dans la représentation, qui sont dans le fake, chacun à leur échelle. Mais ils sont dans un espèce de truc où ils sont pas à la bonne place, en fait. Et ça m'intéressait pas mal. Après, j'avais envie de parler de plein de choses. Donc, il y a plein de valeurs qui sont véhiculées. Il y a justement le côté respect dans les relations avec la chanson de R&B où je fais une chanson de R&B avec un couple qui s'entend bien.
Et d'ailleurs, tu vas la sortir cette chanson ou pas?
Ouais, on va faire le clip.
C'est pas une blague.
Mais c'est pas un spoil aussi d'en parler?
Non, parce que.
Elle est incroyable.
On a failli la mettre en story et on s'est dit non, on peut pas quand même. Mais
nous, après, quand on a été manger au resto justement avec Charlène, on l'avait dans. C'était horrible.
Il faut que tu la sortes.
En fait, je fais une chanson de R&B justement où j'imagine un couple qui s'entend bien parce que dans les chansons de R&B, elle va jamais bien et lui il est là, ouais, mais je peux pas te dire je t'aime, tout ça. Elle fait, mais dis-moi, je t'aime, machin. Et du coup, là, j'imagine une chanson de R&B et. Non, ça spoil pas du tout justement, parce que je la chante pas et tout. Et donc, du coup, tout ça, ça a été. Par rapport à ce que tu dis, la maturité, c'est que j'ai vraiment pris le temps de le travailler et je me suis dit, là maintenant, je fais tout ce que j'aime et j'écris comme j'ai envie d'écrire. Faut qu'il y ait du fond, déjà, ça me plaît, mais il va y avoir de l'absurde. Je vais emmener les gens où je veux à partir du moment où c'est bien fait. Et il y a beaucoup de personnages aussi parce que j'adore faire ça. Et voilà quoi.
On a adoré, on a beaucoup rigolé. Et
toute la salle,
c'est mieux quand il y a un fond en fait à la comédie, il y a un fond et il y a un message à l'humour, tu vois. La salle entière était morte de rire quoi.
Ça se passe bien, c'est cool.
Si vous nous écoutez, si vous voulez passer un bon moment, allez voir Alex.
C'est clair, on vous le recommande.
Suivez-le
très fortement
sur les réseaux aussi, mais allez voir son spectacle. Merci. Pour rigoler. Oh, ça fait du bien de rigoler aussi, surtout dernièrement. Ça te permet de pas penser à tout ce qui se passe actuellement, pas passer à penser à tes problèmes, enfin ça fait du bien quoi. Ok, donc on fait deux petits jeux, enfin on fait un petit jeu, après on fera les questions. On va faire un petit ça ou ça.
Allez, vous venez d'écouter le dernier single de Kid Cudi et tout de suite c'est parti pour le jeu ça ou ça avec Aline et Cédric. C'est parti, on vous écoute les amis.
Waouh. Alors ça ou ça, c'est très simple, il faut que tu répondes ça ou ça.
Ok.
Alors
moi je le fais. Est-ce que tu préfères qu'il n'y ait personne à ton spectacle ou personne à ton enterrement?
Je préfère qu'il n'y ait personne à mon enterrement. Je serais mort que je mets l'affiche.
Oui, ah dire que...
Moi, je veux tellement qu'il y ait des gens à mon spectacle. Ouais. J'étais là. Là, t'as mis là. Ouais, ouais. Non, mais je serais mort. Non. Vraiment. Et puis faites autre chose. Vous penserez à moi. Envoyez-moi des trucs. Envoyez-moi des fleurs. Et puis... Tout ira bien. Venez voir le spectacle.
Est-ce que tu préfères faire bid sur bid? Et il y a Mylène Farmer dans le public. J'espère que tu es fan de Mylène Farmer parce que sinon ça n'a pas tombé.
Je ne suis pas fan de Mylène Farmer, mais tu sais que c'est ma collègue parce qu'on a le même producteur.
Arrête.
Foresti, Mylène et Bibi.
Bon, allez.
Les trois grands.
Allez.
Bon, du coup, on va quand même dire faire bid sur bid, mais il y a Mylène Farmer dans le public.
Ouais. Ou Foresti, si tu veux vraiment que j'ai un truc.
Allez, Foresti. Tu sais qu'on allait dire Foresti, après on s'est dit non, mais c'est trop facile, tu vois, Foresti, évidemment.
Ah bah là, ou Muriel Robin. Là, d'accord.
Ah, ok. Bon, allez, je la reprends. Faire bid sur bid, mais il y a Muriel Robin dans le public. Ou. Faire une standing ovation, genre incroyable, mais il y a Zemmour dans le public.
Qui se lève et qui t'applaudit.
Bah, tant qu'il y a une standing... Moi, j'ai fait danser Valérie Pécresse, hein, sans le savoir, à la fin de mon spectacle. À l'époque où je faisais une chorégraphie dans mon spectacle, un ancien, et en fait, à la fin, je voyais qu'il y avait Pécresse qui sort de la salle. En fait, je ne suis pas responsable du bord politique des gens dans mon spectacle. Tant qu'il a payé, je ne l'inviterai pas, je pense. Mais il y a une standing.
Il y a une standing, c'est vrai, il y a une standing.
Mais sinon, c'est les bits devant Forest. Ouais. Non, mais c'est impossible, impossible.
Okay.
Je me fustige.
Quelle serait ton arme fatale face à l'arrivée des zombies?
Je pense un fouet électrique, je pense.
Ah ouais?
Ouais.
Un taser quoi?
Ouais, mais un truc. Parce que je suis nul en visage. Tu vois, je sais même pas le dire. En visage.
En vision.
Pour viser. Je suis nul. Les trucs aérosols, ça te va à la gueule. Non, je pense qu'un truc. Je suis en train de jouer un peu à Prince of Persia et je pense qu'il a un peu. Alors des grands sabres. Ouais, rien à voir.
Mais un fouet, il faut être hyper précis.
Un fouet, c'est dur. Hein.
Il faut être hyper précis.
Alors, ok, alors, je précise. Tu vois Mickey Rourke dans Iron Man 2?
Non, mais. Non.
Des gens voient autour de nous, les fantômes, et ben il a des espèces d'immenses fouets électriques, et je me dis, ça, c'est quand même pas mal. Ils arrivent en masse, tu fais rah, la caméra confirme à ma droite.
Okay.
Voilà.
Okay.
Mon arme fatale, c'est ça. Non, pas les blagues, ils vont pas comprendre.
Non, ils vont pas comprendre ça.
Est-ce que tu préfères avoir le même prénom que ton copain ou être identique à lui physiquement? Ou si c'est alors, pas déjà le cas.
Il s'avère que j'ai eu un premier mec qui s'appelait Alexis. Donc déjà, on était Alex et Alex. Et j'ai une passion pour les couples de mecs qui se ressemblent beaucoup. Tu sais, même les si jumeaux, au début, ils ne vont pas se ressembler physiquement, ouais, mais ouais. Tu sais, à force de traîner ensemble.
Ouais.
Et non, c'est pas le cas avec mon mec. Et je préfère soit on se ressemble, soit on a le même prénom. Bah, limite, non, je sais pas, les deux me gênent. En fait, le même prénom, ça va être chiant pour quand on nous appelle. Et le même physique, c'est dans la rue, vraiment. Le côté, vous êtes frère ? Non.
C'est mon mec.
Donc,
faut que tu choisisses.
Allez, le même prénom.
Allez.
Enfin, ça. Est-ce que tu préfères que les gens t'aiment pour qui tu n'es pas ou que les gens te détestent pour qui tu es ?
C'était censé être la dernière question, mais OK.
Que les gens m'aiment tout court. Allez, ciao.
Allez, merci, au revoir.
Non, mais je déteste pour... Non, mais en fait, c'est terrible. Bah, je préfère qu'ils m'aiment pour qui je suis pas. Et je pense qu'il y a plein.
Ah ouais ?
Bah oui.
Non, qui te dé... Ah, ok,
non,
ok.
Il m'aime pour ce que je suis pas, c'est ça ?
Pour oui. qui tu n'es pas.
Ouais, mais il m'aime quand même. Même ouais, si mais c'est pas vraiment ce que je suis.
Ou non, mais c'est pas du tout qui t'es.
Ouais, mais il y a
c'est...
des gens qui.
C'est
me...
tu mens là, enfin, c'était pas du tout
ouais, mais alors,
qui tu es vraiment.
L'autre, c'est vraiment toi et on te déteste pour
mais
la...
ça, c'est leur
ce
problème. Ouais. Mais ça, c'est leur problème.
Au moins, t'es toi-même et t'as rien à te reprocher ou de mentir, tu vois.
Moi, je pensais vraiment frontalement.
Ah, vraiment que t'es un énorme connard.
Bon, c'est bizarre un peu comme question, il faut le dire, mais.
Non, mais alors peut-être la deuxième, oui. Oui, oui. Je préfère être moi-même dans tous les cas. S'il y a des gens à qui ça plaît pas, tant pis. Voilà, je vois ce que tu veux dire.
Allez. Ouais, bon, on en a d'autres, on va dire. Est-ce que je préfère faire 1 million de vues pour ta pire blague ou faire 100 vues pour ta meilleure blague ?
100 vues, meilleure blague.
Ouais.
Ah ouais.
La qualité.
Toujours.
Ouais, la qualité. Parce qu'en plus, si c'est une pire blague, les gens vont se moquer de toi, vont pas venir te voir, machin.
C'est vrai.
Moi, je préfère qu'il y ait des. En fait, j'ai compris après. Je préfère vraiment cibler qu'on dise putain, ça, ce mec est hilarant, d'autres font non. Mais que pour certaines personnes, je sois très drôle que moyen. Le monde.
Ok, ouais.
Ouais.
Bah, finalement, ça t'a réussi en plus de faire des trucs
bah, voilà.
Où c'est toujours toi. Et...
C'est ce que je me suis dit.
Avoir plus d'argent ou plus de temps. Ça
vu que le
vraiment,
temps. Non, mais si, c'est une vraie thématique. Vu que le temps, c'est un truc qui te.
Plus de temps.
Plus de temps.
Évidemment.
T'as peur du temps qui
oui,
passe.
Mais... Ah, bah, imagine, genre, tu pourrais vivre 150 ans. Si là, on te disait, tu vois, tu vas vivre jusqu'à 150 ans, tu le prends.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Tu te dis pas, il y a un moment.
Ouais, non, j'ai le temps de faire des trucs comme ça. J'ai un peu plus de temps et tout. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est évident. Après, immortel, je m'en fous. Et puis surtout, je vais voir la décrépitude du monde. Mais c'est plutôt les étapes qui me font flipper. Le côté... Ouais, les étapes, bah, ça me rapproche de la mort, c'est sûr. Hein, mais,
Et t'as peur de la mort.
Ouais. Ouais, ouais. J'ai pas fini de faire tout ce que j'avais prévu de faire, en fait.
Mais t'as le time, hein ? T'es jeune.
Bah, j'y suis, j'y travaille, on y est.
On y est.
Faut pas avoir le temps comme ça, en fait. Hein. Faut pas se dire... Enfin, surtout dans le monde gay, j'ai envie de dire, on est très... Une fois qu'on arrive à la quarantaine, c'est un peu le début de la fin, tu vois, mais
ah non,
je pense alors, qu'on est, on est...
Mais en plus, c'est même pas une question de, tu vois, de décrépitude de physique ou quoi, hein, c'est vraiment une question d'accomplissement.
De faire des choses, quoi.
Ouais, et puis vraiment, ça, tu sais, les étapes, je sais pas, le mariage, les trucs comme ça, c'est vraiment des trucs où tu te dis, en fait, je suis vraiment dans cette vie. C'est ce que je dis dans ce spectacle, dans mon spectacle, je dis, j'aimais bien quand j'avais juste le temps de rêver et d'espérer en disant, quand je serai grand, je crois que c'était un peu confortable. Mmh. Là, faut mettre les mains dedans.
Et maintenant, t'es grand.
Ouais, maintenant, je suis grand.
Mais c'était la fin de cette
séquence
de ça ou ça.
Séquence.
Du coup, on a demandé à la commu sur Instagram des petites questions à te poser. J'avoue qu'il y a
beaucoup de
propositions en
oui.
mariage.
Quelqu'un demande, c'est quoi ton style de mec ?
J'ai pas de style. Ouais, non, vraiment. C'est souriant, drôle et un peu du jote, quoi. Voilà. Sinon, vraiment, quand tu vois le panel de mes ex, il n'y a pas de règles. Il n'y a vraiment pas de règles.
Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on va te voir dans LOL saison 5
quand ils me proposeront, on verra.
C'est un truc que tu kifferais
Ça dépend avec qui je le fais. Parce que je pense qu'il faut vraiment faut faire entre potes, quoi. C'est ça qui est bien. Tu vois les meilleures saisons, c'est ça. Et ou alors des gens que je connais pas, mais que j'aime leur humour et tout. Après, je serais nul.
T'as une personne qui t'a fait beaucoup rire dans LOL, toi ? Que tu dis genre, cette personne, elle me tuerait ou de rire ?
Je sais pas, il y a ma pote Laura Felpin qui était super. Moi, l'idée, si je fais LOL, c'est que pour faire une belle carte Joker aussi, j'ai déjà décidé, tu vois. C'est un peu ça le côté spectacle.
Elle serait incroyable ta carte Joker.
Becky, parce qu'avec son. ça, c'était absurde. Toute cette saison, la saison 3, était quand même assez. C'était vraiment mon humour, en fait, donc ça m'a beaucoup plu. Et là, dernièrement, Jérôme Commander, très drôle aussi.
C'est qui deux personnes avec qui tu ferais LOL ?
Les deux personnes là ?
LOL ou LOL, je sais pas comment on dit, mais.
Moi, je pense à ma meilleure pote Thaïs.
Okay.
Qui est humoriste.
Ah oui,
et
mais elle a pas déjà fait. J'ai l'impression qu'elle a tellement de saisons, elle a pas encore
non,
fait.
Non, tu confonds Rousse, c'était Audrey Fleurot. Mais
Non, Audrey, elle a pas le même âge.
Oui, c'est vrai. Mais Thaïs, elle a pas fait. Mais Thaïs, comme c'est vraiment. Thaïs, en un regard, on peut se faire rire. En fait, on sait qu'on serait nul, mais on adorerait le faire ensemble. Et après, là, comme ça, d'autres potes humoristes. Moi, je pense à des potes humoristes qui vont se casser. pour faire des belles cartes Joker ou qui viennent avec des jeux ou qui ont le même humour que moi. Yann Marguet, très drôle. Tristan Lopin, évidemment.
Ce serait hilarant.
Ce serait hilarant de vous voir.
Là, j'en oublie sûrement. En plus, je veux dire, j'étais en pamoison devant des artistes et là, j'ai plus les noms. Vous restiez, en tant qu'à fin.
Allez. Bon, mais on espère bon, peut-être y voir. Quelqu'un, il est juste, pas une question, mais il dit OMG, juste, il m'a trop aidé à être out et à dédramatiser la situation.
Ah,
merci,
génial.
Merci encore mille fois.
Bah, merci, merci.
Il y a quelqu'un qui dit depuis le lycée, 4 ans en arrière, j'étais H24 en crush sur lui. Un autre qui dit ce mec est tellement beau. Quelqu'un demande si t'as un projet cinéma.
Ouais, j'écris des formats courts, plutôt. Des fictions, des séries, tout ça. Et cinéma, écoute, j'ai peut-être un projet, mais je reviendrai vous en parler parce que ça va être très, très queer. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Projet de doublage de films d'animation sur le... Je peux pas en dire plus, okay, vraiment, mais ça va être très, si ça se fait, c'est en attente de financement, ça peut être, c'est très très queer, c'est très très classe, c'est très très drôle.
Sur cette même thématique, dans quelle série internationale aurais-tu rêvé de jouer et quel rôle ?
White Lotus.
Oh, quelle saison ?
The White Lotus, la saison 1.
Ah putain, j'ai pas vu.
Et t'as pas vu la saison ?
J'ai vu que la 2, ouais, forcément. Bien, la tous les gays m'ont dit genre, faut que je vois la 2. Ben, j'ai dit, bah go. Ah bah si, la deuxième saison.
Et un mec imbuvable, un peu le gosse de riche là dans la saison 1 qui veut qu'on change sa chambre, ça j'aimerais bien faire ça. Ouais.
Ok.
Quelqu'un demande quelles sont tes inspirations principales, tes principales inspirations.
La vie, le monde et tout ce qui m'agace, tout ce qui m'agace, tout ce qui, tu sais, les gens un peu qui vont me saouler, je suis là, attends, t'énerve pas, écoute, ça en fera un sketch. Et ça souvent c'est.
Qu'est-ce qui t'énerve le plus?
Les gens qui se, ouais les. La surconfiance, hein, les gens qui se montent à eux-mêmes, l'irrespect, ce qui va m'agacer, c'est ça. Le fait de. Les gens qui ne considèrent pas les autres, qui n'ont pas conscience, qui sont avec d'autres gens, le manque de respect. Ce qui m'agace le plus là, concrètement, moi, tu vois, après ce qui m'énerve et qui m'insurge, évidemment, je vais te dire l'intolérance et la guerre. ça fait un peu partie du pack. Hein,
il y a une question trop cute qui demande tout simplement si t'es, est-ce que tu es heureux ?
Oh, c'est mignon. Mmh. Ouais, presque. J'y travaille.
Ok. Ouais. Justement, on recevait Franck, un garçon stupide, la semaine dernière, qui disait justement que lui, enfin, là, on parle dans un
son
truc
alias
philosophique.
C'est un garçon stupide. Oui, oui, comme ça, oui.
Il est Franck, connu comme un garçon stupide. Que lui, c'était un éternel malheureux et qu'il pensait vraiment jamais être heureux de sa vie et qu'il acceptait.
Ah, ouais. Ah moi, c'est l'inverse. Moi, je suis souvent très. Je suis très
toi,
souvent...
t'es un bon vivant, non ?
Ouais, ouais, je suis très bien. Souvent heureux et j'ai un peu ce truc-là aussi. Tu sais, c'est de la chimie. Hein, qu'est-ce qui fait qu'il y a personne qui vont plus avoir du terrain sur la dépression que d'autres ? C'est ça, c'est génétique aussi. Ouais, non, moi, je.
Okay.
Un peu délire, quoi.
On revient sur la première question qui était les deux anecdotes. On va enfin, roulement de tambour, est-ce que tu peux nous les rappeler ?
Ok. Alors, je me suis fait passer
moi, je sais.
Un habitant de la République tchèque, un tchèque, durant toute une soirée, okay. Où il y a le moulage de mon cul en plâtre dans une galerie à Berlin.
Bah moi c'est sûr c'est le 2.
Moi c'est Berlin. Berlin. C'est le moulage. Mais quoique en fait je vois tellement bien faire le tchèque toute une soirée.
Bah parce
pour
que c'est très aléatoire de d'avoir choisi quelqu'un d'un tchèque quoi.
Non je pense que tu t'es trahi parce que t'as dit Tchécoslovaquie. Mais je te vois très bien faire ton cul
vous
en Berlin.
Vous pensez que c'est
Berlin,
quoi
Ah ouais.
Tu veux que ce soit Berlin.
Vous voulez tous avoir mon cul en plâtre.
Bah oui,
quoi.
On vous lâche
bah
après.
C'est clair.
Et bah c'est faux.
Non, putain, je peux pas nous faire ça.
C'est la première fois qu'on se trompe, cette.
Non, mais moi je t'ai dit, t'es très bon comédien, donc je te voyais bien.
Durant une soirée, en fait, c'est juste que c'est un accent qu'il n'y a pas vraiment identifiable et il y a je ne sais pas comment dire. Je parlais comme ça et comme je ne connaissais personne dans la soirée, je l'ai dit que j'étais de Tchécoslovaquie parce qu'il y a au moins personne ne pouvait me parler tchèque puisqu'il n'y avait pas vraiment le langage,
il n'était
pas connu.
Tu fais plus dans la salle, tu faisais quoi, tu vois ?
Oui, c'est un peu la voix différente, oui, c'est tout. Et j'ai même inventé une danse folklorique de comment je le faisais. Je l'ai fait écouter un artiste que je l'avais regardé sur l'internet ou tout. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans un bar une fois où j'ai continué ça. Et là, il y a un mec qui m'a parlé tchèque. Et j'ai fait.
Tu vois ce que j'ai dit.
J'ai arrêté.
Bon, ben.
Il y a un mec qui m'a parlé tchèque. Et j'ai fait quoi ? Parce que j'étais bourré. Quoi ? Deux fois, il m'a fait. Bah alors, t'es pas tchèque. Et j'ai dit non, mais j'ai juste l'accent. qu'est-ce que ça racontait. Non, juste je parle mal français.
Quand j'avais 2 ans. Putain, mais t'as des délires, c'est trop, c'est hilarant. En vrai, ça va être trop drôle de se faire passer pour une autre nationalité quand tu connais personne, tu vois.
C'était à Lyon, ça, c'était il y a quelques années déjà. Et c'était aussi comme ça, les gens, ils parlaient sur moi sans vergogne et j'entendais ce qu'ils disaient, tu vois. Ça, c'était hyper intéressant.
Ah, trop bien, parce qu'ils pensaient que t'étais étranger.
Ils pensaient que je comprenais, comprenais pas.
C'est trop.
Du coup, t'as trop accès à un truc.
C'est
trop
qui ce mec, ou alors plutôt, oh, putain, il est pas mal, quoi.
Putain, il a pas son cul moulé à Berlin. Et non.
Ah non. Ah,
j'adore votre fantasme. Il est où il est situé.
Franchement, ouais, Berlin, on connaît, hein, on sait que Berlin, c'est possible. Et puis c'est Alex Ramirez finalement. Bon, mais merci encore une fois énormément d'être venu sur Contre Nature. Écoute, on peut tous aller te voir ton spectacle Panache à...
Attends, mais fais-le toi, dis-le toi directement du coup. Bah oui.
Mes amis, mes petits queers, venez voir le spectacle Panache. C'est un spectacle pour vous, pas que. C'est ça qui est génial. Ramenez vos amis, ramenez tout le monde. Venez en couple, seul, entre amis. Moi, je suis là pour vous. 19h, jeudi au samedi, comédie de
Paris.
Et quel jour?
J'ai eu peur là, putain.
T'avais pas dit que t'avais des dates spéciales?
19h, jeudi au samedi.
Oui, viens de le dire.
Tant pour moi.
Non, en vrai, allez voir Alex, c'était très, 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 très drôle. Merci. Et ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Et bravo à toi encore une fois pour ça.
Tout ce que tu
et ce fais. Que j'allais dire aussi, ça doit être tellement dur de répéter ou d'apprendre un truc aussi bien fait. Enfin, je me dis, à chaque fois, il n'y a jamais de quoi, qu'il n'y a jamais de. Genre, je sais pas, ça marche. Tout a l'air si parfait que tu te dis, mais comment quoi? Bref.
Merci beaucoup.
Donc voilà.
Voilà.
C'est comme ça que se termine cet épisode avec Alex Ramirez, avec un S à la fin.
On dit un mot pour savoir s'ils ont écouté jusqu'au bout.
Ouais, oui, c'est vrai, quoi, c'est vrai.
Mot. Un mot qui résume un peu toute cette discussion.
Ah oui, alors moi j'ai.
Ah, ou ce que tu veux finalement, oui.
J'allais dire crédence, moi. Non, putain, je suis désolé, je bloque. Attendez, on va trouver. On a parlé de le parcours,
check.
Le machin. Ouais, check.
Check.
Check. Écrivez-le comme vous. Écrivez-le comme vous.
Comme vous voulez. Check.
Check. Un check. Un check. Un check. Voilà. Check.
Nickel. Bon ben voilà. On espère que vous avez kiffé cet épisode avec Alex. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles. Ça fait plaisir. Sur YouTube, le pouce bleu. Why not? Est-ce que ça existe encore le pouce bleu? On est même pas sûr.
Un pouce en l'air. C'est un pouce en l'air.
Un pouce en l'air.
Un pouce quoi.
Un pouce.
Enfin. Et, ouais. En l'air.
Voilà. Et oui. On se dit à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode de.
Contre nature.
C'était Contre Nature avec Aline, Cédric et Alex. Bonne soirée.
Oh, putain, je suis trop fan.
Oh, incroyable.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.